Alors, on va retrouver le texte de 2 Pierre dans nos Bibles. Je vais introduire en quelques phrases, parce que nous avons fait la première étude, première épître de Pierre au printemps. Et on a lu dans cette épître que Pierre croyait, entre guillemets, il croyait vraiment dans le déluge universel. Et il se sert même de ce fait-là, qu'il le voit comme quelque chose de clair et d'historique pour expliquer le sens du baptême. Et Jésus aussi a parlé du déluge comme une réalité historique. Et la difficulté que nous avons au 21e siècle, c'est que ça s'oppose, ça entre en opposition avec ce que on apprend, ce dans le quoi on a grandi, comme quoi l'homme a évolué, qu'il toute la vie a la même origine et que c'est par une longue d'évolution où nous en sommes aujourd'hui là où nous en sommes. Et le déluge ne trouve pas de place, bien sûr, dans ce modèle qui s'impose à notre société, surtout particulièrement en France. Alors la pression est forte, hein, et les chrétiens s'accrochent aux branches un petit peu, on pourrait dire, par rapport à le conflit qu'il y a, par rapport à ce qu'enseigne la Bible. Et les chrétiens font comme ils peuvent. Et il y a quand même de la pression, nous vivons dans une pression à côté de cette affirmation, l'affirmation de la Bible, de la parole de Dieu, et de l'autre côté de l'affirmation de nos contemporains, qu'on aime bien, mais est-ce que c'est pas facile, hein, de qu'ils puissent envisager autre chose que ce qu'ils connaissent. Alors, si vous avez pris, vous êtes arrivé de vouloir défendre le point de vue de la Bible, ben là, vous allez avoir des problèmes, hein. On va vous considérer comme de gentils illuminés. Ça, c'est le mieux qui peut se produire. Ou le pire, c'est que de dangereux fanatiques, hein. Des gens qui sont des fauteurs de troubles, finalement. Alors, que faire au milieu de tout cela? Comment arriver à gérer cette pression? Nous allons lire l'apôtre Pierre, qui dans sa deuxième lettre resserre le couvert, hein, il reparle de nouveau de ces choses-là. Et on va lire le chapitre 3, la deuxième épître de Pierre, du verset 1 au verset 15, la moitié du verset 15. Bien-aimés, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Dans l'une, dans l'autre, je fais appel à vos souvenirs pour éveiller en vous une saine intelligence, afin que vous vous rappeliez les paroles prononcées autrefois par les saints prophètes, ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront des moqueurs pleins de railleries. Ces hommes vivront en suivant leurs propres désirs et diront « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout reste dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que les cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuelle sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Verset 8. Mais s'il y a une chose, bien-aimée, que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, voulant qu'aucun ne périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagrégeront et la terre, avec les œuvres qu'elle contient, sera brûlée. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent-elles être saintes? Attendez et hâtez la venue du jour de Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et où les aliments embrasés fondront. Mais nous attendons, conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tâche, irréprochable, dans la paix. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est votre salut. Et c'est la suite pour une autre fois. Seigneur, merci pour l'apôtre Pierre, parce que il nous parle toujours, il nous parle encore, et inlassablement. Il a répété à enseigner dans les églises. Nous avons nous aussi besoin d'être inlassablement enseignés, entendre et répéter toujours des choses que nous savons, mais que nous avons toujours besoin de réapprendre et nous réapproprier. Fortifie notre foi, Seigneur, ce matin, dans ta parole. Que nous ne nous endormions pas et que si nous sommes endormis, nous nous réveillons et que nous soyons comme nous le recommande l'apôtre Pierre, dans la paix, réveillés, dans la foi, dans la tranquillité et dans l'assurance que tu vas bientôt revenir, notre Seigneur. Merci de faire grandir notre foi ce matin et notre paix en toi. Dans le nom de Jésus. Amen. Alors, dans quel contexte notre texte a été donné ici, cette deuxième épître de Pierre? Alors, c'est intéressant, elle est très intéressante. C'est un peu le testament que Pierre laisse aux églises. Il veut donner des derniers conseils pour que les chrétiens arrivent à bon port. C'est son cœur pastoral là qui parle dans ce premier chapitre, les versets 3 à 11, il donne des conseils, je cite à la fin, « pour que l'entrée dans le royaume éternel de notre Seigneur Jésus-Christ nous soit largement accordée. » Et il a ce souci-là que l'entrée dans le royaume de Dieu pour ses frères et sœurs soit largement accordée. C'est pas surprenant qu'il parle ainsi, je trouve, parce que Paul mettait aussi en garde les Corinthiens quant à leurs œuvres qui seraient passées à l'examen et qu'ils ne se retrouvent pas sans rien devant le Seigneur, à poil, on dirait. Ou Jean, quant à lui, recommande que ce jour, quand le Seigneur viendra, de ne pas être éloigné de lui, d'avoir honte d'être éloigné du Seigneur. Donc, on est dans ce contexte donc que Pierre veut vraiment qu'il va partir, il sera pas toujours là, mais que les chrétiens continuent et que voilà, il rentre par la grande porte dans le ciel. Ensuite, il place un point de repère, à savoir les prophéties, dans la suite du chapitre 1. Voilà, c'est vrai qu'il a vu le Seigneur, c'est vrai qu'il a entendu, qu'il a vu de ses yeux, il a vu la voix, il a vu la transfiguration. Il dit ces choses sont certaines, et d'autant plus certaines, il dit, je tiens pour vrai la parole prophétique qui sont dans nos Bibles. Et donc il nous oriente vers les écrits des prophètes qui ont été inspirés de Dieu et qui sont là pour nous, comme une lumière pour nous, pouvoir nous diriger. Et il continue après le chapitre 2 avec les faux docteurs et les faux prophètes qui sont au milieu des chrétiens. Ce sont eux qui créent des sectes. Et puis ils sont cupides, ils sont arrogants, ils sont creux et ils ont malheureusement renié Jésus. Paul les appelle des loups cruels en Actes 20, 29, des faux frères en Galates 2, 4, des faux apôtres, des ouvriers trompeurs. Jean les appelle des antéchrists. Ils sont sortis du milieu de nous, mais ils ne sont pas des nôtres, dit-il. Et donc on est dans ce contexte que Paul se soucie, Pierre se soucie que quand le revient. Il voudrait que les chrétiens soient dans les meilleures conditions possibles quand le Seigneur va revenir, sachant donc qu'il y a des faux docteurs, il y a des personnes qui ont dévié, qui sont là dans les églises, qui sont sorties du droit chemin, et que c'est une difficulté de plus. Bien-aimés, voici déjà la deuxième lettre que je vous écris. Par l'une et dans l'autre, je vous appelle à vous souvenir pour réveiller en vous une saine intelligence afin que vous vous rappeliez des paroles prononcées autrefois par les saints prophètes ainsi que le commandement du Seigneur et Sauveur enseigné par vos apôtres. Verset 3 à 7 maintenant. Sachez avant tout que dans les derniers jours viendront les moqueurs, pleins de railleries, des hommes vivront en suivant leurs propres désirs, diront « Où est la promesse de son retour ?» En effet, depuis que nos ancêtres sont morts, tout est resté dans le même état qu'au début de la création. De fait, ils veulent ignorer que les cieux ont existé autrefois par la parole de Dieu, ainsi qu'une terre tirée des eaux et au milieu d'elle. Ils oublient volontairement que le monde d'alors a disparu de la même manière, submergé par l'eau. Or, par la parole de Dieu, le ciel et la terre actuels sont gardés pour le feu, réservés pour le jour du jugement et de la perdition des hommes impies. Dans les derniers jours, on va se moquer du retour de Jésus. La création sera acceptée, dit-il. Le principe qu'il y a un Dieu créateur, visiblement, ce sera accepté. Mais l'histoire du déluge, de l'humanité, ça, ce sera volontairement rejeté, qu'il y a eu un jugement universel sur l'homme. L'objectif de ces personnes, donc, est de vivre selon leurs propres désirs. Dans les derniers temps, les personnes voudront vivre selon leurs propres désirs. Ils s'attacheront à des doctrines de démons, dit Paul à 1 Timothée 4.1. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu, de Timothée 3.14. Ils seront pieux, mais en apparence, de Timothée 3.5. Ils détourneront leur oreille de la vérité pour écouter ce qui leur plaît, en 2 Timothée 4.4. Et Pierre, bien sûr, ne veut pas que nous vivions selon notre propre plaisir. Il veut que nous vivions selon la volonté de Dieu. Et c'est possible, car Jésus-Christ nous a rachetés pour que nous soyons à lui. Et donc, dans l'esprit de Pierre, on l'a vu dans la première épître, chapitre 3, versets 10 et 11, ce qui est le meilleur, c'est de s'attacher à la volonté de Dieu et non à la nôtre. C'est ce qui est l'apôtre Paul dit aussi que la piété a la promesse de la vie présente et de la vie à venir. C'est le meilleur pour maintenant et pour demain que de s'attacher non pas à nos propres désirs, mais de s'attacher à ce que le Seigneur veut pour nous. Et il martèle donc qu'il y aura un jugement par le feu de la parole de Dieu. Comme il y a eu autrefois un jugement du déluge, il y aura un jugement par le feu. Et donc, comme ça a été pour la parole de Dieu, c'est une déclaration de Dieu qui va déclencher ce jugement. C'est par la parole de Dieu. c'est pas le réchauffement climatique, c'est pas qu'il y aura une explosion thermonucléaire, non, c'est Dieu qui déclenchera ce qui est décrit ici, les éléments embrasés, etc., toutes ces choses apocalyptiques. Est-ce que nous sommes loin des derniers temps, nous autres? Bon, il y a quelques années en arrière, il aurait été difficile de penser que les hommes, voilà, acceptent que nous soyons, créés, hein, comme il est dit dans notre texte, qu'ils puissent dire tout reste dans le même état depuis le début de la création. La doctrine de l'évolution, en effet, de nos jours, tombe un petit peu en miettes. Philippe Bell nous a bien expliqué tout ça. L'origine de la diversité de la vie est bien incompatible avec ce que Darwin envisageait. Et il vivrait de nos jours, il aurait bien du mal, et il ne se sera certainement pas lancé dans cette théorie de l'évolution. Visiblement, les choses vont changer. On ne va pas être tout à fait arrivé à ce qu'il est écrit ici, mais on en est vraiment à la porte. Dans les derniers jours, on va se moquer du retour du Seigneur. La principale moquerie, ça va être pour nous de se moquer. Bah, le Seigneur, revenir, non. Versets 8 et 9, par rapport à cela, l'apôtre Pierre dit, en fait, le Seigneur patiente. Il y a une chose bien aimée que vous ne devez pas oublier, c'est qu'aux yeux du Seigneur, un jour est comme 1000 ans, 1000 ans sont comme un jour. Ici, c'est le psaume 90 dont Patrick nous avait parlé il y a quelque temps. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme certains le pensent. Au contraire, il fait preuve de patience envers nous, ne voulant qu'aucun périsse, mais voulant que tous parviennent à la repentance. 2000 ans qui ne s'est rien passé depuis que le Seigneur est monté au ciel et qu'il a promis son retour. Et des générations se sont succédées qui ont soupiré, soupirent encore, « Viens, Seigneur Jésus !» Et il ne s'est rien passé. Et des générations se sont succédées qui ont levé le poing contre Dieu en disant « Moi, je fais ce que je veux de ma vie, je fais comme je veux, et il ne s'est rien passé. » L'explication est que le Seigneur patiente. Il retient le jugement afin que on se repente. Et la repentance, donc, on le sait, hein, c'est ce changement radical, une décision de changer la direction de sa vie. Il n'y a pas de conversion sans repentance. C'était au cœur du message de l'Évangile. Et Jean-Baptiste avait commencé par ça. Il a annoncé la repentance. Sans prise de conscience, cette prise de conscience que l'on doit se tourner personnellement vers Dieu. Le Seigneur donc attend notre repentance. C'est clair comme il le dit ici. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Il use de patience envers vous qui lisez cette lettre, envers vous qui entendez cette lettre, envers vous les chrétiens. C'est vrai que Pierre doit savoir que dans les rassemblements de chrétiens, il y a beaucoup de chrétiens qui sont ensemble. C'est sûr, il y en a qui ne sont pas convertis dedans, dans le groupe. Il suppose ça, son expérience, c'est qu'il y a des gens qui viennent aux réunions, mais ils ne sont pas tous convertis. Pierre dit, convertissez-vous, vous attendez qu'il se passe quoi? Convertissez-vous. Pierre sait aussi que dans les rassemblements de chrétiens, il y a des personnes qui ont besoin de changement dans leur vie intérieure, dans leur vie chrétienne. Vous savez que vous avez besoin de changer telle ou telle chose. Changez-les. Pourquoi attendre et attendre quoi? Il faut le faire. Il faut se repentir. Le Seigneur attend cela. Il vous attend. Alors vous, allez-vous le faire attendre? Pierre sait aussi que des communautés entières ont besoin de changement, de repentance. Les églises ont besoin de repentance. Et c'est vrai qu'il a raison. Même ici à Figeac, il y a des domaines dans notre vie d'église où on a besoin de repentance. Il y a des choses qui vont, mais il y a des choses où on a besoin on le sait, on le conçoit bien, qu'il y ait des changements. Morel est témoin, on a commencé le culte ici cet été. Il y avait plein de personnes qui étaient arrivées, des visiteurs, sont arrivés à l'heure, tout impeccable. Bon, on a commencé, on n'était que deux. Et puis il y avait 12 ou 13, 14 personnes devant nous, des familles entières, plusieurs qui étaient là. Et puis après, frères et sœurs de l'église de Figeac sont arrivés. Bon, on sait que si on peut arriver à l'heure, ça glorifie le Seigneur, hein, ça donne un autre élan. Les réunions de prière, bon, on en a fait des progrès, mais chaque année, on relance cette même. Mais comment faire pour que la réunion de prière soit plus suivie? Est-ce qu'il faut changer l'heure? Est-ce qu'il faut faire ceci? Est-ce qu'il faut faire cela? Et les participations aux rencontres autour de la Bible, ben, elles ont surtout du succès pour l'église de Gramat, en fait, ceux qui assistent le savent. Donc on a des progrès à faire, on sait qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils changent avant que le Seigneur revienne. Hein, si on le sait, si on en est convaincu, ben, faut le faire. C'est vrai qu'il y a des choses qui vont bien, mais pourquoi attendre de changer ce qui cloche? Le Seigneur ne veut que personne ne périsse, il patiente. Et il patiente combien de temps? Versets 10 et 12. Le Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec fracas. Les éléments embrasés se désagrégeront, la terre et les œuvres qu'elle contient seront brûlées. Puisque tout notre monde doit être dissous, combien votre conduite et votre piété doivent être saintes. Attendez la venue du jour du Dieu, jour où le ciel enflammé se désagrégera et les éléments embrasés fondront. Le Seigneur viendra brusquement. Et vous savez, dans les évangiles, vous connaissez ces paroles de Jésus, « Veillez et priez, je viendrai au moment où vous n'y penserez pas, soyez toujours prêts. » Et spirituellement, il n'y a pas de réveil matin pour se garder éveillé, il n'y a pas de café, il n'y a pas d'alarme qu'on peut mettre pour être prévenu quand le voleur rentre, non. « Je viendrai, dit-il, au moment où vous n'y penserez pas. » Et donc, il faut être toujours prêt. C'est la seule façon d'atteindre le Seigneur, c'est d'être toujours prêt. Un jugement de l'univers par le feu. Il y a beaucoup d'endroits, j'ai relevé quelques endroits dans les Écritures où il fait question d'un jugement par le feu. C'est clair ici, dans l'esprit de Pierre. Bon, dans Ézéchiel 38, vous verrez le jugement de Gog et Magog. En Sophonie, le premier chapitre, il est question que tout sera détruit. Un feu qui dévorera les rebelles qui pêchent volontairement. En Hébreux 10, 27, le Seigneur apparaîtra au milieu d'une flamme de feu pour punir ceux qui n'obéissent pas à l'évangile. De Thessaloniciens 1, 8. Et on a parcouru l'an dernier tout l'Apocalypse au chapitre 8, 9, 18. Il est question de jugement par le feu. Comment se représenter ce que ça pourrait être? On a l'actualité, on a vu ces grands incendies qui sortent des forêts, qui avancent vers les maisons, vers les habitations, qui brûlent tout sur leur passage. Combien c'est terrifiant, ces choses-là. Mais si on fait la comparaison avec le déluge, ce sont que des inondations aujourd'hui. Des inondations, c'est très grave lorsque les fleuves, l'eau monte et ravage tout. Mais ça n'a rien à voir avec le déluge universel qui s'est passé. Et on peut s'attendre à ce que le jugement par le feu n'aura rien à voir avec les grands incendies dramatiques que nous connaissons. Ce sera d'une toute autre échelle. le jour du Seigneur sera terrible, que faire ? Alors on pourrait dire, attends Seigneur, tu vas détruire toute la création, c'est trop dommage. Et alors les moqueurs vont continuer indéfiniment à se moquer de nous et à se moquer de lui. Au contraire, Pierre propose de hâter ce jour, d'attendre et de hâter ce jour. Alors on peut être surpris. Pour hâter le jour, on comprend que comme il attend notre repentance, si on se repentance, on va travailler dans le sens du Seigneur. Et pour attendre, je pense qu'on comprend mieux de quoi il s'agit au paragraphe suivant, la suite et la fin de notre texte. Puisque tout notre monde doit être, verset 13. Mais nous attendons conformément à sa promesse, un nouveau ciel et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, dans cette attente, faites tous vos efforts, il revient au début de son discours, de premier chapitre, faites tous vos efforts pour qu'il vous trouve sans tâche et irréprochable dans la paix. Considérez bien que la patience de notre Seigneur est de votre salut. Comment vivre au milieu des moqueurs ? Comment vivre au milieu des moqueurs aujourd'hui ? Il faut savoir ce que l'on attend, je pense. Souvent, au niveau des, quand il y a des problèmes, des conflits, on a parlé de problèmes au Niger. Et voilà, les gens sont souvent dans l'attente. On dit les Français sont dans l'attente de ce qui va se passer et on attend. Voilà. C'est pas une attente comme ça que le Seigneur veut pour nous, attendre de voir ce qui va se passer. On va voir en fonction. Non, c'est d'avoir une confiance dans la parole de Dieu. Il a fait mention de la parole de Dieu dans tout ce passage, notre cher apôtre Pierre. Nous n'attendons pas un événement, nous attendons une personne, nous attendons le Seigneur. C'est ça qui est important que l'on se souvienne. Et nous n'attendons pas la destruction du monde actuel. Non, ce que nous attendons, c'est un nouveau ciel et une nouvelle terre. Un monde plus juste, un monde parfaitement et continuellement juste, un monde où la justice habitera. Patrick, dans le psaume 85, nous a parlé de ce beau verset qui dit « La bonté et la fidélité se rencontrent, la justice et la paix s'embrassent. » C'est dans ce monde-là, c'est ce monde-là que nous attendons. Un monde meilleur, un monde nouveau, un nouveau ciel et une nouvelle terre. Ce n'est pas la destruction de ce qui est actuel, mais c'est ce qui est nouveau qui va le remplacer. On reparlera de ça une autre fois, parce que c'est un sujet intéressant. Savoir ce que l'on attend. Autre recommandation, j'ai noté ça, faire de la musculation spirituelle. Vous savez, les prisonniers, quand ils sont en prison, ils attendent leur libération, mais il y a beaucoup qui s'attachent à faire de l'exercice physique, ils sont là enfermés, mais voilà, ils font des pompes, ils font pour être en bonne condition physique quand ils vont sortir, et puis ils vont préparer leur réintégration, ils vont voilà apprendre un métier, faire quelque chose, ils se projettent dans le moment où il va sortir de prison. Et nous aussi, il nous faut faire de la musculation spirituelle, se préparer au moment où nous serons sortis de ce monde tel que nous connaissons pour entrer dans ce monde nouveau. Se garder pur, servir, rechercher et poursuivre la paix, comme l'apôtre l'a enseigné dans sa première lettre. Faire de la musculation spirituelle. Dieu est bon. Il est impossible de connaître le jour et l'heure. Pour ce qui concerne le jour et l'heure du retour du Seigneur, personne ne le sait, ni les anges dans le ciel, ni le Fils, mais le Père seul. Dieu est bon. Il faut garder cette assurance, cette confiance que Dieu est bon. Et s'il patiente, c'est pour nous. c'est pour nous. Croyez que la patience de notre Seigneur est de votre salut. Seigneur, merci pour la lettre de l'apôtre. Ces choses-là peuvent nous semblent souvent si lointaines. Tout ce qui doit se passer au retour du Seigneur, ça nous semble, depuis longtemps on lit ces textes et depuis longtemps on dit, voilà, le jour approche. Seigneur, mais que nous ne nous lassions pas que de nous préparer et que de nous tenir prêts. Te demandons, Seigneur, ce sont des moments qui seront assez terrifiants, assez terribles, mais Seigneur, nous savons qu'elles seront suivies par quelque chose de bien meilleur que tu as préparé pour ceux qui t'aiment. Seigneur, merci de ta patience. Nous te demandons pour que beaucoup de personnes puissent te trouver, puissent avoir cette repentance. Aide-nous, Seigneur, à bien travailler à notre niveau ici, à Figeac, à être cultiver une vie sainte et cultiver aussi une vie qui donne envie à ceux qui nous voient vivre. Oui, je voudrais être comme ce frère, comme cette personne. Je voudrais savoir qu'est-ce qu'elle a de plus que moi. Je voudrais savoir qui est Jésus. Seigneur, merci de fortifier notre Église par rapport à cette nouvelle année, que nous puissions démarrer joyeusement cette rentrée tous ensemble. Et Seigneur, que puissions prendre beaucoup de joie et de plaisir ensemble avec toi. Et Seigneur, que ce soit toujours le centre et la joie de toutes nos réunions. Merci Seigneur. Maranatha, comme dit, comme concluait l'apôtre Paul, viens Seigneur Jésus. Amen. Amen.